Philippe, si tu veux bien nous lire le chapitre, s'il te plaît.
L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas cessa le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa ses prières à l'Éternel son Dieu. Dans ma détresse, moi, j'ai prié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, je prie au secours que tu m'as entendu. Je m'avais jeté dans l'abîme au fond des océans, et les courants m'ont encerclé. Toutes les flots et les vagues ont déclaré pour moi. Je me disais, je suis chassé devant toi, pourtant je reverrai ton temple saint. Les eaux m'ont environné et menacé ma vie. L'abîme m'enserrait tout autour de ma tête, les dalles m'ont enlacé. Et je suis descendu jusqu'au fond des mers, mers et montagnes. La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous qui s'ouvraient. Et du fond de la fosse, tu m'as fait remonter, ô Éternel mon Dieu. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel. Et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à de belles idoles se privent de ta gloire. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance, et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. L'Éternel parle au poisson que le jeta Jonas sur la terre ferme.
Merci. Dans le chapitre 1, nous avons eu un prophète récalcitrant. Dans le chapitre 2, nous voyons un prophète reconnaissant. Si dans le chapitre 1, nous allons voir un peu l'attitude des marins transformés alors qu'ils partaient en direction de Tarsis, où les circonstances et les difficultés de la vie les ont amenés à reconnaître le vrai Dieu, donc à se repentir, nous voyons dans le chapitre 2 une attitude de repentance du prophète. Nous avons vu la dernière fois que la séparation a amené la séparation avec celui qui était la cause de la tempête, donc Jonas, a amené la paix, le calme sur la mer, et qu'il était souvent aussi nécessaire pour nos propres vies, que Dieu amène des situations dans nos vies pour nous ramener, nous aussi, en tant que croyants récalcitrants. Et c'est très intéressant, par exemple, quand vous étudiez le livre de la Genèse, ou quand vous lisez le livre de la Genèse, de l'étudier sous l'angle de la séparation. On a Abraham, par exemple, qui devait quitter son pays, sa patrie, etc. Dieu a fait une œuvre dans son cœur. Jacob a dû connaître la séparation avec sa famille, pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il y était pratiquement éduqué, parce que ses attitudes n'étaient pas toujours très bonnes, mais en tout cas, il voulait la bénédiction. Nous avons eu Joseph, aussi, qui a été séparé, et chaque fois, Dieu a préparé ces personnes pour une prochaine étape. Et le thème de la séparation dans l'Écriture est un thème assez important. D'ailleurs, nous le revoyons dès le départ dans les premiers chapitres de la Genèse, parce que Dieu sépara les 3 premiers jours, et ensuite il habita les différentes situations. En tout cas, c'est un thème que je vous encourage à étudier. Mais en tout cas, quand le lien est coupé avec Jonas, il y a une nouvelle étape. Et probablement, étant jeté par-dessus bord, il devait prier et crier à ce Dieu qu'il connaissait. Et nous allons ici avoir la preuve dans ce chapitre 2 de Jonas. Dieu intervient, répond à sa prière, et il est avalé par un grand poisson. Alors souvent, on raconte ça aux enfants, que c'était une baleine qu'il a avalé, mais rien dans la Bible nous dit que c'était une baleine. Bien au contraire, certains pensent l'autre, mais c'est probablement un poisson de la famille des requins, et pendant longtemps certains ont dit que c'est pas possible, mais on a retrouvé des personnes dans des ventres de requins d'une certaine taille, et je dirais, les libéraux veulent nous dire que ce livre a été écrit après telle date, et puis que ce n'est pas possible, etc., etc., mais je crois que Jésus lui-même a confirmé nettement l'autorité de ce livre en se comparant à Jonas, qui est le seul prophète auquel il s'est comparé, et en disant de la même manière que le prophète a été dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme va être dans le sein de la terre, etc. Donc, Les libéraux, ils nous diront ce qu'ils veulent. Nous croyons que ce livre est authentique dans toutes ses œuvres, parce que le Créateur peut utiliser un verre, il peut utiliser un musicien, il peut faire souffler la tempête, il peut la calmer. La preuve, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce à sa manière. On est parti sous la pluie, et on est sorti de la voiture, il n'y avait pas une goutte. On est arrivé sur les quelques gouttes sur les crêtes pour nous rafraîchir un petit peu sous le soleil. On est arrivé ici, on a mangé, puis il a commencé à faire froid. Dieu nous donne parfois des petits clins d'œil comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est toujours comme on veut, mais on peut être reconnaissant. Alors, ce qui est intéressant par rapport au premier chapitre pour la transition, c'est que par la mort de Jonas, la mort en tout cas aux yeux des marins, parce qu'eux, ils n'ont pas deviné qu'il était avalé par un poisson. Par sa mort, eux ont été sauvés. Par la mort de Christ, nous sommes sauvés. Alors, quand je parle du parallèle, je ne parle pas du parallèle de l'attitude de Jonas, mais de l'image. Seule la mort ou le fait de le jeter par-dessus bord a amené le salut de ses marins. Et seule la mort de Christ peut amener le salut dans le cœur d'un homme. Nous pourrions aussi développer un autre aspect, l'aspect de la souffrance, qu'on retrouve souvent aujourd'hui. Je crois que Daniel a parlé dans sa méditation un peu cet après-midi, que certaines souffrances sont les conséquences directes de nos attitudes rebelles ou récalcitrantes par rapport à la pensée et la volonté de Dieu dans nos vies. Et pourtant, Dieu les utilise dans ces situations, j'avais presque dit, il utilise Jonas malgré lui, parce qu'il l'utilise pour sauver ses marins, pour les interpeller, pour les amener à la reconnaître. Et d'autres occasions, les souffrances sont des occasions de salut. Donc parfois, à conséquence d'une souffrance, en d'autres fois, des situations pour interpeller d'autres personnes. Et c'est pour ça que dans mon cher frère, qui aime bien son verset préféré, c'est Romains 8, 28, « Toute chose travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Les circonstances travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a donc la condition, c'est l'amour pour Dieu. Alors, la seule solution, eh bien, se trouve dans le fait de jeter cet homme récalcitrant, ce prophète, par-dessus bord. Lorsque, dans ma jeunesse chrétienne, je lisais souvent ce chapitre 2 du livre des Jonas, et je me suis dit, mais il avait vraiment la foi, puisque il priait déjà, il remerciait Dieu pour son salut, alors qu'il était encore loin d'être sauvé. Et un jour, le Seigneur m'a éclairé, je n'ai pas trop comment être bien entendu, mais au fait, quand on lit de très près, la prière est au passé. Il dit, dans le monde du poisson, « Prie à l'Éternel », il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. » Le fait qu'il soit en vie dans le ventre du poisson est un exaucement à sa prière. Parce que le psaume nous montre, enfin ce passage nous montre, qu'il a mangé, comme disait dans le temps de Funès, et puis salit par la racine. C'est-à-dire, il est allé au fond du trou. Et le texte nous le montre. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. Donc ce psaume est l'expression d'adoration par rapport à la délivrance que Dieu lui a accordée, non pas à la sortie du poisson, mais libéré de la tempête et de la mer et de la noyade et tout ce que ça implique. Parce que la Bible ne nous dit pas à quel moment le poisson l'a ravalé. Parce que quand vous êtes dans l'eau au milieu de la tempête, même si elle s'est calmée, peut-être il a nagé un petit peu, peut-être il a coulé à plein pic, je ne sais pas comment ça s'est passé, ou est-ce que le poisson attendait à côté du bateau, prêt à l'action. Il est simplement dit que l'Éternel fit venir un grand poisson. Alors je ne sais pas s'il le fit venir à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, 1 kilomètre, je ne sais pas. Pour en vous dire Jonas. Et il est dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Alors j'imagine qu'il n'a pas emmené sa lampe de poche pour éclairer l'intérieur du poisson. Ça devait être une expérience absolument dramatique, parce que au milieu de ce estomac poisson, j'imagine qu'il était peut-être embourbé dans quelques dizaines de centimètres d'algues ou d'autres petits poissons qui nageaient, je ne sais pas. J'imagine qu'en tant que médecin chirurgien qui ouvre un estomac d'homme, il doit parfois, et souvent de toute manière, y mettre quelque chose par-dessus le nez, parce que l'odeur ne doit pas être si proche de nos magasins de parfumerie, mais il était là, sans savoir trop, il me semble qu'il lui arrivait une chose qu'il savait, c'est qu'il était réellement sauvé. Et Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Donc nous avons là ici l'attitude de repentance du prophète. Il change de conduite. En tout cas, d'abord, il change d'avis. La repentance, c'est un changement d'avis qui amène un changement de conduite. Et dans le Nouveau Testament, il est clair, aucun homme ne peut être sauvé s'il ne se repent pas d'abord de ses péchés. Et la repentance inclut confession de son péché, la reconnaissance de son état devant Dieu et la séparation du péché pour ensuite se tourner vers Dieu. La conversion implique repentance et foi. Deux éléments. Et là, il se repent et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et il n'invente rien. Et ce n'est même pas une prière qu'il donne lui-même. Alors, on va faire un petit exercice. Je vais donner à quelques personnes de rechercher les versets dans les psaumes et nous allons voir le parallèle avec ce chapitre 2 de Jonas. Et je vous ai dit la première étude que je suis persuadé que Jonas connaissait son Dieu en tant qu'homme de Dieu, véritable prophète, et qu'il connaissait le Dieu de la parole et la parole de Dieu. Et ici, nous en aurons une preuve. Parce que ces psaumes, la plupart ont été écrits bien avant que Jonas ne soit, en tout cas la plupart de ces cas. Alors, allons-y. Comment, Jérémie, si tu peux prendre psaume 88, versets 3 et 4. Marilyn, ah oui, bon, vous avez peut-être pas le temps de lire. Donc, psaume 103, versets 4a. Ensuite, Anne, psaume 18, verset 6. Sylvie, psaume 31, verset 22. Fabrice, psaume 42, verset 7b. Simon, psaume 69, verset 1 et 2. Monette, psaume 30, verset 3. Claudine, psaume 142, verset 4 et 5. Sylvie, psaume 5, verset 7. Marie, psaume 50, ça on va le revoir à la fin, verset 14 et 23. Christian, psaume 3, verset 8. Et nous allons faire le parallèle avec Jonas, avant de tirer cette leçon. Alors allons-y, on commence, psaume 88, versets 3 et 4, et vous regardez Jonas 2, verset 2b.
Que ma prière parvienne en ta présence, tends l'oreille à mon cri, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie touche au séjour des morts.
Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, donc c'est pas tout à fait comme ça, mais on retrouve la pensée. 88, verset 34. Parallèle avec 2b. Et aussi, psaume 103, verset 4a.
Alors, 103, 4a. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté, de miséricorde.
C'est lui qui délivre. Alors, psaume 18, verset 6.
Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris.
Avec toujours le verset 2. Psaume 31, verset 22.
Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa bienveillance envers moi, comme dans une ville forte.
Psaume 42, verset 7b.
Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi.
Avec le verset 3.
Avec le verset...
Oui, enfin, non, c'est le verset 3 de Jonas, c'est la comparaison. Oui. Psaume 69, verset 1 et 2. Avec le verset 5.
Au chef des chantres, sur le lit de David, sauve-moi, ô Dieu, car les eaux me lancent mal vite. Tu sauves ?
Encore
5 ?
Non, mais verset, psaume 69, 1 et 2. Tu as lu les deux. Alors, lis jusqu'à 3, s'il te plaît, parce que c'est pas facile.
j'enfonce dans la boue sans pouvoir les tenir. Je suis tombé dans une gouffre et les eaux m'inondent.
Merci. Psaume 30, verset 3.
Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri.
Avec 6b, tu m'as remonté vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Psaume 142, 4 et 5.
Quand mon esprit est abattu au delà de moi, toi tu connais mon sentier, sur la route où je marche, je monte aux yeux au ciel. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Tout aussi j'ai perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme.
Voilà, quand mon esprit, mon âme est abattue au delà de moi, avec le verset 7. 5, verset 7.
Tu fais périr les menteurs, l'Éternel adore les hommes de sang et de feu.
Psaume 50, verset 14 et 23.
Offre ton sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Celui qui offre ton sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voix, je ferai voir le salut de Dieu.
Verset 9, avec Jonas, le verset 9. Psaume 3, verset 8.
Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants.
Avec le verset 9, le salut vient de l'Éternel. Donc, en tout cas, c'est pas toujours comme dans le Nouveau Testament, quand vous avez des textes de l'Ancien, ils ne sont pas du mot à mot nécessaires dans le Nouveau Testament, mais c'est des textes qu'on retrouve. Et ces versets donnent quelque part un élément de ce que Jonas méditait aussi, la parole de Dieu. Et il cite les psaumes. Comme nous, quand nous les lisons, quand nous sommes dans des situations, nous crions à Dieu et Dieu intervient. Alors, la délivrance est pour Jonas de la mort physique, des flots et de la tempête. Mais les trois jours de ténèbres, dans le ventre du poisson, sont une expérience qui marque profondément, et qui le prépare à changer de conduite pour dire oui à Dieu pour le prochain ordre. Dans la détresse, il est heureux d'être toujours en vie, même s'il est toujours quelque part prisonnier. Parce que la délivrance n'est pas encore totale. Elle est sur un point de réponse à la prière, parce qu'il était menacé de mort, mais de l'autre côté, il n'est pas encore sur le point de reprendre le chemin pour aller à l'ennemi, parce qu'il est à l'intérieur, dans les ténèbres, du ventre du poisson. Dieu aussi, dans nos propres vies, peut travailler des délivrances en un clin d'œil et total, comme il peut le faire par étapes, pour nous préparer pour la prochaine étape. Et nous en avons pour preuve la manière dont Jésus travaille dans le Nouveau Testament. Quand vous étudiez les miracles de Jésus, on est étonné de voir que souvent, Jésus demande l'impossible. Par exemple, à l'aveugle, il ne va pas lui demander « lève ta main » ou « étends ta main ». Il va lui dire « va te laver au réservoir de Siloé ». Et il aura pu dire, mais comment tu veux que j'aille au réservoir de Siloé, je ne connais même pas le chemin. À celui qui a la main sèche, il ne lui dit pas, va te laver là-bas, il lui dit, étends ta main. Au paralytique, il va lui dire, fais l'impossible, lève-toi. Et à un moment donné, il rencontre un homme et puis lui met de la boue. Et moi, je ne sais pas comment vous auriez réagi si un coup Jésus allait là en bas. Et puis, avec la pluie qui tombe, vous êtes aveugle, et puis il prépare sa petite potion, si je puis me permettre de m'exprimer comme ça, et il lui met sur les yeux.
Mais il
ne
voit pas
ce que c'est que la médecine. Oui, il ne voit pas, non. Il ne voit pas, les autres voient. Mais bon, à moi, je ne vois pas ce qu'on fait. C'est comme quand les enfants viennent le voir, ils me disent, papa, ferme les yeux, je vais te mettre quelque chose dans la bouche. Voilà. C'est sûr qu'il ne voit pas. Mais, Il lui a mis sur les yeux, et qu'est-ce qu'il a dit? Et parce que Jésus lui pose une question, il lui dit, est-ce que tu vois quelque chose? Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Qu'est-ce que l'homme lui a répondu? C'est merveilleux, c'est formidable.
Il voit des arbres.
Il voit des hommes comme des arbres. Ah. Qu'est-ce que serait-il passé si cet homme s'était contenté de dire c'est mieux que rien, même si c'est pas parfait? Ben, il serait peut-être parti en continuant à voir les hommes comme des arbres, parce que je dis, mais c'est formidable. Moi, je suis vraiment content. Si pendant tant d'années, je n'ai rien vu, au moins, je vois un peu dans le trou, c'est comme si je n'avais pas de lunettes. C'est un peu bizarre, mais c'est top par rapport à ce que j'avais. Mais en même temps, il va être authentique et vrai en disant, je vois des hommes comme des arbres. Et Jésus le touche une deuxième fois. Et Dieu peut agir de la manière comme lui, il l'entend. Parce que nous avons nos solutions à nous, à nos problèmes. Nous aimons que le Seigneur nous délivre et nous guérisse, mais nous aimons aussi lui dire de quelle manière il devrait le faire. Mais Dieu est Dieu. Et nous sommes là pour reconnaître sa manière et sa parole, et pas comme nous voulons. Nous sommes appelés, nous, à dire, Seigneur, ok, quand tu veux, ce que tu veux et où tu veux. Et la manière que tu choisis. Mais nous devons être vrais aussi. Et quand nous voyons des hommes comme des arbres, ou quand notre situation est floue dans certaines situations, eh bien, il faut le lui dire. Comme Jonas a dit, non, mais je ne suis pas content, oui, je suis fait bien de mériter. Je ne suis pas content avec toi. De toute façon, pour Dieu, ça ne pose aucun problème. Les oreilles de Dieu, je peux vous assurer, ils sont bien collées, si vous me permettez l'expression. Il n'y a aucun problème de lire dans nos cœurs. Et ce n'est pas une difficulté pour lui que les hommes sont. Ce matin, je me suis levé, quand Daniel a commencé à lire Jérémie, j'ai dit, tiens, ce matin, je me suis levé, ce n'est pas dans ma lecture actuelle, mais parfois, je fais comme certains, Seigneur, montre-moi ta volonté, et puis boum, tombe sur Jérémie, non, je vais ouvrir ma Bible. Et puis, et voilà ce que je dis. Si on me donnait au désert un gîte pour voyageurs, j'abandonnerais mon peuple, je m'en éloignerais car ce sont tous des adultères. Moi, j'ai transposé. Non, je n'ai pas dit qu'on est tous des adultères. Moi, j'ai dit, si on me donnait une cabane dans les Vosges, je m'y installerais. Et puis, j'ai lu le chapitre 20 de même prophète. Dieu a un cœur si grand qu'il est capable de tout écouter. Mais il cherche la sincérité au fond du cœur. Ce n'est pas la peine de lui dire des choses que vous ne croyez parfois pas vous-même. Ou de parfois demander à Dieu des choses que nous ne voulons pas réellement. Vous n'êtes jamais surpris parfois prier certaines choses et puis que si vous devez réfléchir à l'autre, fait, est-ce que tu veux vraiment ça? Franchement, est-ce que tu le veux? Comme tu aimerais, si tu n'avais pas, tu ne pourrais pas vivre ça. Je donne un exemple. Quand nous perdons une paire de clés pour entrer ou utiliser la voiture, un truc comme ça, la manière de chercher cette paire de clés est tout à fait différente que si d'un coup on perd une paire de chaussettes au milieu du camp. Bah, de toute façon, c'est normal, dans les 5 ans, on va en perdre une paire. Mais la recherche n'est pas la même. La recherche de Dieu a différentes dimensions aussi. Et lorsque Jonas parle à son Dieu, lorsque Jérémie parle à son Dieu, lorsque nous voyons la délivrance s'opérer par moment, par étape, Dieu a toute liberté de le faire en son temps et à la manière qu'il entend lui. Nous sommes simplement dans l'admiration de ce qu'il fait et dans l'émerveillement de la réponse au cri du cœur. Parce que, comme j'ai dit avec Pierre, quand lui s'est enfoncé dans l'eau, il n'a pas essayé d'un coup à chercher comment prier. Il a dit Seigneur sauve-moi. Et je n'imagine pas Jonas d'un coup faire une longue prière. Peut-être dans son cœur déjà, quand ils l'ont balancé par le support, il a peut-être dit, j'étais stupide et sans intelligence. J'ai payé un billet pour fuir loin de la face de l'Éternel, et maintenant je me trouve en train de perdre ma vie à cause de ma stupidité, ou plutôt de ma rébellion. Alors, pour lui, il pensait fuir loin de l'Éternel, parce qu'il parle du Saint-Temple, plusieurs fois ça revient. Donc pour lui, la distance géographique était importante. Mais pour Dieu, il n'y a pas de distance géographique. Ce qui sépare l'homme de Dieu, c'est le péché. Ce n'est pas le kilomètre. Et ce qui ramène un homme dans la présence de Dieu, c'est la repentance, la confession du péché et le retour à Dieu. Et rien de plus. Alors, c'est ce qu'il fait quand il est au fond du trou. Je suis descendu, dit-il au verset 7. Alors, nous avons le prophète reconnaissant, sauvé, qui prie et qui loue Dieu et qui rend témoignage. Au verset 4, il dit, je suis chassé loin de ton regard. C'est ce qu'il pensait en tout cas. Mais Dieu savait très bien, moi, je vais te ramener où tu veux pas aller. Moi, je trouve la pédagogie de Dieu extraordinaire dans l'ensemble de ce livre. Et un humour. Nous avons Dieu plein d'humour. Et on va le voir aussi par la suite. Imaginez-vous. Le Jonas, le grand poisson, le petit ver de terre, un petit ver de terre qu'on écrase, qui enlève tout ce qui fait la joie de Jonas, son ricin. Vous y avez déjà pensé? Un misérable ver de terre que vous pouvez voir, oui, bien sûr, il est aussi représenté comme le Seigneur qui est comme un vermisseau qu'on écrase. Parce qu'un ver n'a aucune possibilité de se défendre. Mais en même temps, il fait beaucoup de dégâts. En tout cas pour Jonas, parce que le ricin lui était cher. Et ce petit verre de terre lui a enlevé ce qui faisait la joie de son cœur. Et parfois, il y a des petites choses dans la vie que Dieu permet, qui nous enlèvent certaines joies normales de la vie, mais pour nous amener à réaliser certaines choses dans notre relation avec Dieu. Alors, il témoigne, je suis chassé loin tant que je verrai encore ton saint temple. Perspective. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Donc, vous pouvez vous imaginer un peu, les roseaux m'ont entouré la tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais, tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Sept fois dans ce chapitre, vous trouvez le mot éternel. De différentes manières dans ses œuvres, dans sa nature et dans son appellation. Au verset 1, il dit, Jonas pria l'Éternel, son Dieu. Au verset 6, il dit, tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Au verset 7, quand mon âme était abattue, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi, deuxième fois mentionnée dans ton Saint-Temple. Pourquoi il pense au Temple? Parce qu'il pensait fuir cet endroit-là, où Dieu révèle sa présence. Il était prophète en Israël, le Temple était quand même à Jérusalem. Et il dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Ils rendent témoignage, et puis au verset 9, ils s'engagent. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Ça vous rappelle la même chose? Qui?
Les marins.
Les marins, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils mettent l'éternel et Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont offert un sacrifice. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à la deuxième? Ils ont fait des vœux. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et là, j'aimerais qu'on relise la personne qui a lu le psaume 50. De relever le psaume 50, versets 14 et 15. À nouveau. Même verset 13, parce qu'il est dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? C'est une question que le psalmiste se pose. Et ensuite, il répond. C'est à toi, Marie? Vas-y. Oui, maintenant, là, tu vas lire 13 à 15, s'il te plaît.
Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre ton sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au bout de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras.
Et puis le 23, tu peux relire, s'il te plaît.
Celui qui offre ton sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir au salut de Dieu.
Quelle promesse! Quelle promesse pour la personne qui dit je veux. Pour moi, j'offrirai des sacrifices. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Et puis la grande phrase qui est le cœur du chapitre, le salut vient de l'Éternel. La délivrance ne peut venir que d'en haut. La manière dont il l'opère, c'est sa manière, et la délivrance la plus grande, c'est de la mort à la vie, sauvée pour l'éternité. C'est alors la vie éternelle dans sa vie, dans son cœur. C'est alors confesser à Dieu nos péchés, ouvrir notre cœur au Christ, mort pour nos péchés, qui est allé dans le sein de la terre pendant 3 jours et 3 nuits, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire, revenant, et lorsque nous plaçons notre confiance en lui, il nous sauve parfaitement. Et il sauve parfaitement ceux qui s'approchent de lui, dit l'Épître aux Hébreux, pour prier, pour intercéder en faveur de chacun de ses enfants. Et quand il passe par là, il nous est dit, l'Éternel parla au poisson. Vous avez déjà parlé à un poisson? Que vous a-t-il répondu? Je suis persuadé que vous aurez beaucoup de mal à avoir une réponse positive de sa part. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent. Vous êtes certainement déjà vu soit des films où vous êtes allé dans un endroit où ils travaillent avec les dauphins. Et ils utilisent un sifflet et puis les dauphins font leur petit truc. Mais c'est incomparable par rapport à ce que Dieu dit. Parce que lui, il peut amener un banc de poisson dans le filet et les filets sont remplis à en craquer, de sorte qu'il faut toute la bande des apôtres pour ramasser les poissons. Comment d'autres se faisaient? Il peut amener un gros poisson pour manger le petit Jonas. Ou en tout cas, pour lui apprendre une leçon. Dieu parle aux poissons. Dieu amène un ver de terre. Dieu souffle sur la tempête. Dieu donne un bon vin à l'ami Jonas. Parce que Dieu est le Dieu créateur, Dieu est le Dieu souverain, et Dieu utilise les différentes situations pour amener son prophète là où il veut l'amener. Et où est-ce que Dieu veut nous amener, nous? D'après vous. Près de lui. Quel est son but pour notre vie? C'est important de savoir. Quel est le but de Dieu pour chacune de nos vies? Romains 8. Nous sauver, oui, mais c'est pas qui nous.
Pour
le sanctification. Pardon?
La sanctification.
Oui, oui, mais sanctification en but quoi? Que nous soyons parfaits, mais. Romains 8. Oui. Ouais, Éphésiens 1. Le but de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons semblables à qui?
Jésus.
Et quand vous chantez ce chant, vers Jésus lève les yeux, les choses de la terre pâliront, mais le but de Dieu, c'est que nous soyons semblables à l'image de Jésus. Dieu nous a créés à son image. Cette image a été brisée par le péché. Et Dieu n'a pas abandonné son objectif. Et ce n'était pas un accident que la chute dans la pensée. Certains aimeraient nous dire, ouais, mais Dieu n'a pas prévu la chute, la rupture de l'alliance. Dieu est-il pris au dépourvu? Il y a vraiment des gens, on se rend bien compte, on raconte parfois n'importe quoi. Dieu a un but. Et si vous n'êtes pas convaincu, Proverbe 16, verset 4, même le méchant pour le jour du malheur. Vous n'êtes pas convaincu que Dieu a vu? Lisez Éphésiens chapitre 1, parce que c'est ça, cette expression revient à la louange de sa gloire. Mais il a déroulé son plan, il l'a dévoilé au fur et à mesure qu'il a en lui-même préparé avant la fondation du monde. Avant que qui que ce soit d'entre nous soit né, il était dans le cœur de Dieu. Alors, Dieu veut que nous soyons semblables à l'image de Christ. Et si nous sommes rebelles, si nous sommes récalcitrants, Dieu nous utilisera parfois malgré nous pour amener des marins à réfléchir quant au salut de leur âme. Mais il ne laissera pas tomber, il utilisera le poisson, le ver, le ricin, la tempête, le frère, la sœur, le mari, le conjoint, les enfants, le grand-père, la grand-mère, le voisin, le collègue de travail, et parfois tout simplement la voiture ou la non-voiture, toutes sortes de situations pour nous amener à un point où on dit, Seigneur, tu as raison, j'ai tort. C'est la chose la plus difficile parfois. Tu as raison, j'ai tort. C'est là pour ton sens. Et le Seigneur, je capitule. Fais de moi ce que tu veux. Où tu veux, quand tu veux, ce que tu veux. Ça, c'est dit. Mais lorsque d'un coup, on le dit, et que Dieu dit, bon, maintenant, j'aimerais simplement que tu fasses ça aujourd'hui. Une fois qu'on est sûr, c'est vraiment. On n'est pas toujours d'accord. Que feriez-vous ce soir si Dieu, d'une manière ou d'une autre, vous interpelle et dit, mais écoute, ta relation avec cette personne-là, elle n'est pas très nette. Et là, je ne parle pas du groupe ici, hein, mais comme il m'a parlé à un moment donné ou à un autre, on me dit, tiens, tu devrais peut-être écrire une lettre à ton ancien directeur d'école pour lui demander pardon. Et je lui dis, mais Seigneur, ça ne va pas. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'école. Il n'est pas question que moi j'ai envoyé une lettre à mon directeur, parce que bon, ils m'ont mis dehors de l'école 3 jours, pas parce que j'étais trop gentil. Mais vraiment, bon, c'est un autre problème. Mais il n'était pas question pour moi, en tant que chrétien, j'étais pardonné, sauvé, que j'écrive une lettre pour demander pardon à ce païen de directeur qui n'était toujours pas sauvé. Mais Dieu ne m'a pas laissé tranquille. Et c'est tout parfois. Je me rappelle une autre fois, 3 fois dans la même semaine, le passage de Proverbe sur Proverbe 26-23. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Je dis, Seigneur, je comprends rien. J'ai laissé ma patrie, l'Alsace. J'ai laissé mes parents en Alsace. J'ai laissé mon boulot. Je suis ici dans le sud pour te servir. Sous le soleil et parfois dans le froid de Mistral avec un porte-à-porte avec un couloir extérieur et je gelais de partout. Je comprends pas ce que tu veux, Seigneur, mais je te donne mon cœur. Et à partir du moment où j'ai dit, Seigneur, bon, le Seigneur, la réponse était claire, tu vas écrire une lettre à cette personne pour lui demander pardon. Vous croyez que j'ai prié avec un sourire? Je n'étais pas d'accord avec ça. Et ça a duré 3 jours. Parce que je me dis, bien là, tu es en train de fabuler, c'est trop, trop fanatique, là, très, trop extrémiste, mais ça ne peut pas être vrai. Et je me suis dit, en mon cœur, c'est pas vrai. Et quand je disais, non, c'est pas vrai, c'est comme j'avais 5 tonnes sur mes épaules. Et 5 tonnes pour des petites épaules, c'est déjà loin. Et je dis, mais Seigneur, ok, d'accord, je vais le faire. Hop, j'avais le cœur léger. Mais je me dis, bon, ça, tu te trompes, là, c'est émotionnel, tout ce coup-là. C'était pas émotionnel du tout. Et je dis, ben, pour être vraiment sûr, je vais quand même écrire la lettre, et puis je la posterai plus tard. Vous savez, les gens ont une situation, on aimerait que ce soit toujours plus tard. Et que ça n'arrive jamais, parce que c'est humiliant. Et puis je l'ai laissé là, et puis, après, je dis, c'est pas ça. Non, c'était vraiment ça. Est-ce qu'il se peut que l'Église de Jésus-Christ, hein, dans son ensemble, soit parfois si légère ou si désinvolte ou si peu profonde parce que des relations n'ont pas réellement été réglées, parce que des péchés n'ont pas vraiment été confessés, séparé et pardonné. Parce que la repentance du peuple de Dieu est bien souvent superficielle. Et je pense au prophète Osée qui prophétisait quelques temps plus tard de Jonas. Et si vous n'en êtes pas convaincu, lisez Osée chapitre 6. Peut-être que vous auriez déjà entendu une prédication sur ce beau chapitre, où le peuple dit, venons, cherchons à connaître l'Éternel. Et on voit dans ces premiers versets quelque chose d'extraordinaire. On a l'impression que le peuple de Dieu a une faim, une soif de Dieu et il veut se tourner vers Dieu. Et puis d'un coup, la réponse vient. Mais votre, qu'est-ce qu'il dit? Votre piété, c'est comme la rosée du matin, c'est-à-dire superficielle. Quand arrive le soleil, il disparaît. Quand dans le peuple de Dieu n'expérimente pas une attitude de repentance, je ne parle pas d'acte de repentance, une attitude de cœur que lorsque Dieu parle, on confesse son péché, on se sépare du péché et on laisse Dieu remplir nos cœurs par le Saint-Esprit, nous restons superficiels dans notre connaissance de Dieu. Et Jonas, par son expérience, devait connaître une profondeur parce qu'il a, comme je dis tout à l'heure, mangé les pissenlits par la racine. C'est lui qui le dit sous d'autres expressions. Mais il était au fond. Et là, Dieu l'a travaillé. Et Dieu, pour que ce travail puisse se faire, il amènera des circonstances dans nos vies. Mais il respectera aussi quelque part notre choix. Parce que Dieu ne nous impose pas la qualité de vie spirituelle que nous choisissons ou que nous voulons vivre. Nous sommes des êtres qui disent « je veux » ou « je ne veux pas ». Et nous l'avons entendu dans la méditation, nous le voyons ici avec Jonas qui dira « pour moi, j'offrirai des sacrifices ». Nous l'avons entendu avec Josué qui dit « vous, le peuple, voilà ce qu'il en est. Oh, et nous voulons servir l'Éternel. Vous êtes incapables. Parce que Dieu est un Dieu jaloux, parce que Dieu est ceci, parce que Dieu est cela. Si, si, nous allons le faire. » Et Jonas dit « moi et ma maison nous servirons l'Éternel. » Habacuc le dira aussi. Avec toutes ces questions qu'il amène à Dieu, il va dire « mais Seigneur, je ne comprends pas ta manière d'agir. » Et puis il termine le livre en disant « toutefois, le figuier ne fleurira plus. La situation économique deviendra dramatique, etc., etc. » Mais il dit « mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. » Dieu nous a donné une volonté. Et j'ai entendu Roy Hessian dans le temps parler de l'homme qui monte rencontrer l'homme qui descend. Qu'est-ce que ça fait? Boum! Et vous savez aussi l'homme qui monte et l'homme qui descend. Ma fille dit tiens, parce que l'homme monte, sort de tâche. Et l'homme qui est descendu, c'est celui qui a laissé la gloire, qui le riche, qui était, s'est fait pauvre pour nous. Et en passant, ça c'est dans le cadre de la collecte. Parce que nous spiritualisons parfois certains de ces versets pour dire ça. Non. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous, c'est-à-dire il a laissé sa gloire, il a laissé ses richesses pour se mettre à notre niveau. Alors, voilà ce que le Seigneur fait. Quand celui qui est descendu a rencontré ce sol de Tarse, une tête au niveau des pharisiens, il est élevé au pied de Gamaliel, il a toute la liste dans le chapitre 3 de Philippiens, et bien ça fait un crash. Et lorsque le Seigneur de Dieu, le Christ, le choix de Dieu, le Fils en qui l'habitude se rapproche, nous rencontre, nous, dans nos situations, eh bien, il y a confrontation. Ma volonté ou la sienne. Et Jésus, en tant qu'homme, a connu cela. Où? Dans le jardin de Gethsémani. Il n'a pas lutté contre le diable, là, mais il a lutté avec sa volonté. Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne. Mais sinon, la nôtre. Et bien des fois, sa volonté et la nôtre ne sont pas en harmonie, en accord. Alors la question se pose, qui va remporter, j'allais presque dire, le morceau? Ce sera lui ou ce sera moi? Et ça, ce sera moi dans une petite délai. Comment il en est si Dieu va vous parler en ce domaine? Et Dieu veut que chacun d'entre nous ne nous contentions pas de l'à peu près. Nous ne nous contentions pas du superficiel d'une relation avec Dieu. Il ne veut pas que nous vivions une vie clopin-clopin. Parce que le but de Dieu, c'est que nous vivions une vie abondante dans la réalité de sa présence. Or, l'abondance de sa présence ne peut se faire sans une repentance en profondeur et une repentance qui se développe dans une attitude constant dans la vie chrétienne. Si vous n'avez pas commandé, je vous encourage à lire les petits livres. C'est des petits livres de Roy Hessian qui s'appelle Le chemin du calvaire. Un petit livre avec de grands écrits. C'est des choses qui nous encouragent. Mais que avoir cette attitude de repentance. Les marins ont connu la repentance. Jonas la connaît. Il expérimente le salut de Dieu. Il se réengage avec Dieu et il est vomi sous la terre ferme. Pour dire maintenant, le mandat va lui venir au prochain chapitre. Dieu le Créateur, Dieu le Souverain, Dieu le Dieu personnel, Dieu le Dieu des miracles, le Dieu est aussi le Dieu Sauveur. Et Jonas salit va devenir un signe pour la génération du temps de Jésus. Parce que quand celle-ci va dire, ouais, qu'est-ce que tu fais comme miracle? Qu'est-ce que Jésus va dire? Il ne nous sera donné aucun autre miracle que celui de Jonas. Et pour ceux qui étaient là, ça veut dire qu'ils croyaient ce qui était écrit là. La manière dont Dieu utilise les signes aujourd'hui, ce n'est pas toujours ces signes que nous recherchons. Et Isaïe a dit aussi, quoi? Nous sommes des signes par notre vie de famille pour cette génération aujourd'hui. et les signes accompagnent ceux qui prêchent l'évangile, mais ce n'est pas toujours ceux qui le font. Alors Jonas a expérimenté le trou, et dans le trou, il a crié à Dieu, et comme j'ai dit la première fois, du sein de la détresse, nos prières sont vraies. Et le Seigneur l'a libéré, dans un premier temps, par le poisson. Et il a remué la sauce 3 jours dans les ténèbres. Et quand il était prêt, il parla au poisson. Et là, je ne sais pas s'il s'appelait Flipper. Mais il lui a dit, Flipper, c'est le moment. Je te libère ton estomac parce qu'il était un peu amer, on se retrouve à digérer pour toi. Oh, je te... Parce qu'on vomit seulement quand on a quelque chose sur l'estomac, ça. Quand on digère bien. On ne rend pas. Mais peut-être le Jonas c'était dans l'estomac du poisson un peu trop dur à digérer. Et le Seigneur dit, rejette-le. Et il a ressorti. Non pas à marcher, mais comme il l'a avalé. Extraordinaire, le Dieu de l'humain. Et Jonas est prêt. Voyez-vous, moi ça m'énervait, ces dieux-là. Parce que je me dis, si Dieu a fait ça avec Jonas, il peut le faire avec toi et moi. Et peut-être ce soir, tu as un endroit où Dieu ne veut pas que tu sois. Il ne part pas être ici ou ça telle, mais dans ton cœur, à l'intérieur. Peut-être tu fais des choix et des choses, tu sais que ça ne cadre pas tout à fait avec ce que Dieu pense ou est. Ce n'est pas toujours facile de savoir ce que Dieu pense ou est. Ou peut-être il a mis des points sur des i, bien clairs, ou dire stop, c'est pas. Alors, il attend que tu le lui dises. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec lui. Il attend aussi que tu le lui dises. Et il s'occupera de toi. Et de moi, selon sa grande bonté, comme nous dirons au chapitre 4, parce qu'il est lent en colère, riche en bonté, mais il ne fermera pas l'œil sur les rébellions. Il ne va pas les laisser passer. Parce qu'il est Dieu. Comme nous aimerions, quand quelqu'un l'a cité, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et Dieu veut que nous autres, ses enfants, nous marchions dans la vérité. Et l'amour. On l'a entendu au chapitre 13, toujours à discipline. Alors, allons juste nous recueillir, parce que je crois que nous avons mon frère à sonner bientôt. Donc, priez et nous allons nous arrêter là. En bénissant ce Dieu. Et en étant nous-mêmes les gens qui s'engagent à nous. Seigneur, parce que tu nous connais chacun ici, et nous voulons te remercier de la manière dont tu traites avec Jonas. Parce que tu es vraiment le Dieu de la délivrance. L'homme peut nous dire que c'est une histoire inventée. Nous savons que c'est vrai. Parce que c'est pas un problème pour toi de parler à un poisson, de faire souffler la tempête, d'arrêter la pluie, d'amener une ville à tes pieds, d'enlever sur le cœur de Pharaon, d'amener Nebuchadnezzar à pousser l'herbe des champs, parce que tu es Dieu. Et nous voulons courber nos cœurs dans ta présence. Et tu sais parfois quand nous sommes récalcitrants à ton appel, à la mission que tu veux nous confier. Lorsque nous voyons nos vies incapables d'accomplir ce que tu veux que nous accomplissions, que nous aimions plutôt fuir et comme Jérémie parfois aller dans cette cabane, dans le désert, plutôt que d'assumer la tâche que tu nous confies. Mais merci parce que dans cette incapacité, ce n'est pas un problème pour toi. Mais donne de la grâce, de puiser en toi l'énergie nécessaire, la grâce, la force pour faire ton œuvre. Et je te prie, Seigneur, si quelqu'un ici, au milieu de nous, est dans une situation particulière où son cœur est lutte ou est enlacé dans les eaux profondes de quelque péché ou de quelque habitude qui le lie et qui le garde esclave, ou dans quelques ténèbres, que le Seigneur puisse aussi expérimenter la puissance de délivrance, non pas pour se servir lui-même, mais pour répondre à ton appel, pour te servir toi, le Dieu vivant et vrai. Et que ensemble nous puissions se servir, que ce soit à Montreuil, que ce soit en Alsace, que ce soit vers les horizons où tu veux nous envoyer. Donne-nous la grâce d'un cœur obéissant. Et merci pour l'objectif que tu as de transformer l'image de Christ. Et nous voulons être de bons collaborateurs. T'adorer et te bénir et te louer. De nous avoir choisis pour être sauvés et pour te servir. À cause de Christ, notre Sauveur et Maître. Amen.